à l'entrée de l'hiver, le cycle des saisons plonge l'homme dans une période difficile. Les nuits se font plus longues, le froid plus vif. La nature perd ses couleurs, ses attraits. Elle paraît mourir. Très tôt, en Occident, les religions païennes, qui sont fondées sur les réalités naturelles, ont institué à cette période, pour nos lointains ancêtres, des fêtes joyeuses. Il s'agissait de soutenir le moral des hommes pour les préserver de la tristesse et du découragement. Quand il a peu à peu remplacé ses religions, le christianisme a eu la sagesse de faire pareil, et c'est ce qui nous vaut, le 1er novembre, la fête de la Toussaint. À un moment de notre vie, où notre être biologique est soumis à une épreuve qui peut contaminer notre être spirituel, la fête de la Toussaint se propose de raviver l'espérance au cœur du croyant. Face à l'automne, il est bon que le chrétien s'entende rappeler que l'homme n'a pas un destin de feuilles mortes ou de fruits trop mûrs. En sombrant dans l'hiver, la nature va peut-être offrir le spectacle de la mort, mais il faut que la communauté chrétienne ne se laisse pas impressionner. Le maître de la nature est le Dieu de Jésus-Christ. Il n'a pas fait l'homme pour la mort, il l'a fait pour la vie. Alors, pour nourrir en nous cette espérance d'être fait pour la vie, pour qu'elle devienne une conviction intérieure, capable de nous faire affronter tous les hivers du monde, les hivers climatiques comme les hivers spirituels ou psychologiques, la liturgie de cette fête chrétienne nous invite à contempler la vie dont jouissent désormais ceux qui sur la terre se sont laissés porter par cette espérance. Ceux qui ont été soutenus par cette conviction intérieure. Dieu nous veut vivants. À un moment de l'année, nous serions tentés de croire l'existence humaine vouée à la déchéance, à la destruction irréversible, à l'échec final. Voilà qui nous est dit et redit, regardez les amis de Dieu. Ils ont traversé les pires épreuves et leur triomphe est définitif. Ils sont morts et ils font l'expérience d'un bonheur infini. Ils sont heureux pour toujours. C'est dans cet esprit que nous avons écouté la lecture toujours un peu déconcertante d'un passage de l'Apocalypse selon saint Jean. Ce texte a été rédigé pour les chrétiens confrontés aux pires épreuves du temps des persécutions, lorsque Rome faisait mourir par milliers dans les jeux du cirque les disciples du ressuscité. La vision de l'agneau immolé, mais finalement vainqueurs, pouvaient soutenir leur courage. Mais reconnaissons qu'il peut y avoir une ambiguïté à se réjouir d'une telle vision, se réjouir du bonheur trouvé au-delà de la grande épreuve, peut nous conduire à fixer préférentiellement, voire exclusivement, notre attention sur le ciel, sur l'au-delà. Et il y a un piège contre lequel, il faut bien l'avouer, le discours de l'Église n'a pas toujours su protéger les croyants. Attention, en nous invitant à nous réjouir du ciel de Dieu, la fête de la Toussaint n'est pas là pour nous détourner de la terre des hommes. Au contraire, et ce n'est pas pour rien que l'Église nous donne aujourd'hui à entendre, à côté de l'Apocalypse, l'enseignement des béatitudes. Cet enseignement des béatitudes marque le début de la prédication de Jésus. C'est comme un projet de vie qui inaugure, un chemin qui ouvre. Avec les béatitudes, nous ne sommes pas conduits au paradis céleste, nous sommes entraînés sur les routes de Palestine. Nous sommes entraînés par des paroles qui sollicitent en nous le goût du bonheur. Nous l'avons entendu, le mot « heureux » est répété 9 fois. Et il est émouvant de constater que ce mot, c'est le tout premier mot que le premier évangile, celui de Matthieu, met dans la bouche du Christ. Comme pour nous dire que l'essentiel de l'évangile est là. Dieu invite au bonheur celui, celle, qui met ses pas dans les pas de Jésus de Nazareth. C'est lui, le pauvre, le miséricordieux, le cœur pur, l'artisan de paix. Et il veut partager son bonheur dès cette terre à qui il voudra lui ressembler. Bon, ce n'est pas un bonheur facile, mais c'est un bonheur qui peut être vécu par n'importe qui, pourvu qu'il accepte de tenter l'aventure de l'Évangile. Alors il faut nous réjouir de cette lecture rapprochée, le même jour, de l'Apocalypse et des Béatitudes. Elle nous aide à comprendre que si ceux que nous appelons les saints sont heureux dans le ciel, c'est bien parce que sur la terre déjà, ils avaient expérimenté quelque chose du véritable bonheur, quelque chose de la vérité des béatitudes. Seule l'expérience du bonheur, un bonheur bien sûr déroutant, paradoxal, scandaleux aux yeux du monde, peut se vivre au milieu des pires épreuves. Seule cette expérience du bonheur a permis à ceux que nous appelons les saints de tenir jusqu'au bout. Les saints du calendrier ont vécu, chacun à sa manière, dès cette vie, telle ou telle béatitude. Et leurs contemporains ont pu en témoigner, et c'est cela qui a rendu plus tard leur canonisation possible. Et puis il y a les saints anonymes, ceux de nos parents, de nos amis, que nous savons auprès de Dieu, eux aussi ont vécu telle ou telle béatitude. Et dans nos souvenirs, nous trouvons notre joie à pouvoir en témoigner. Voilà ceux et celles que nous fêtons aujourd'hui. Voilà ceux et celles qui nous aident à entrer avec confiance dans nos hivers, comme eux, à la suite. Il nous montre la route du bonheur. Il nous encourage. Et si aujourd'hui, nous sommes heureux pour eux, soyons sûrs qu'ils sont heureux pour nous.